Amis téléspectateurs,
bonjour. 9h40, merci d'accueillir l'Instant M dans vos oreilles.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
Après des primaires républicaines brouillonnes, des débats télévisés ras la moquette, la percée tonitruante d'un Donald Trump d'abord moqué par les éditorialistes, la campagne américaine prend une toute autre allure. L'affrontement qui se prépare entre Trump et Clinton s'avère inédit d'un point de vue médiatique, tant les deux adversaires ont une relation tordue avec la presse, pour ne pas dire une franche détestation. Méfiance des journalistes tous azimuts sur fond d'un scandale, là aussi d'un nouveau genre. Et si Facebook tirait les ficelles de cette course à la Maison-Blanche ? Bonjour Laurence Haïm.
Bonjour Sonia.
Correspondante d'ITL à Washington, vous êtes accréditée à la Maison-Blanche. Nous plongeons avec vous dans cette guerre d'image et d'influence après un mot d'actu qui nous ramène, et oui, à la télévision française.
L'Instant M. Tous les médias sont sur France Inter avec Sonia De Villers.
Vincent Bolloré, propriétaire de Canal+, va réduire à la rentrée les émissions en clair, c'est-à-dire gratuites et accessibles à tous sur la chaîne cryptée. Il l'explique aux Échos ce matin, je cite, « Il n'y a pas une seule chaîne payante au monde qui ait des tranches en clair et pour nous, ce n'est pas une obligation réglementaire. » Le clair, c'est le grand et le petit journal de l'avant-soirée qui pourrait disparaître, c'est la nouvelle édition du déjeuner qui pourrait basculer sur D8, c'est le tube, le supplément ou Salut les terriens du week-end qui pourrait être diffusé en crypté. Pour Bolloré, je cite encore, quand on ouvre une tranche en clair, on gagne à court terme des recettes publicitaires, mais on perd des abonnés, d'autant qu'on mise sur des émissions qui n'ont rien à voir avec notre programmation. Du coup, le Canal Football Club et son équivalent en rugby devraient demeurer en accès libre, histoire, si vous comprenez bien, si vous suivez sa logique, de donner envie de payer pour regarder le match qui suit. Alors, toujours dans les Échos et après plusieurs semaines de rumeurs concernant des rachats, Vincent Bolloré précise que iTélé, la chaîne d'info du groupe, ne doit pas être vendue, mais au contraire redéployée. Couvrir plus de sport, ce sont ses mots, plus de cinéma, plus d'international, plus de culture, plus d'économie. Bref, se démarquer en jouant sur nos forces. Bon, et là, pas de bol, c'est l'actu qui rencontre mon invité parce que iTélé, c'est votre maison mère, Canal+ et Bolloré, les maisons mères de votre maison mère. Est-ce que vous voulez faire un commentaire, Laurence Haïm ?
Moi, j'aimerais aussi plus de moyens pour la rédaction de iTélé, qui est une rédaction exemplaire, qui depuis un an travaille dans des conditions extrêmement difficiles, avec beaucoup de détermination pour défendre le journalisme. Et nous attendons de Vincent Bolloré plus de moyens, une ligne claire pour iTélé. On est tous unis par rapport à ça. On a tous travaillé en info continue depuis un an, avec beaucoup, encore une fois, de détermination et de respect pour le public. Et on attend vraiment que quelque chose de bien se passe pour cette chaîne qu'on aime profondément.
Parce que vous ne voyez pas la direction qu'on veut lui donner pour l'instant ?
Alors, moi, j'ai toujours une attitude, c'est que quand on me paye, je ne critique pas. Mmh. Le jour où je critique, je ne reçois plus le chèque. Donc, je ne vais pas être là pour critiquer des gens qui me payent. Pour le moment, Vincent Bolloré et le groupe Vivendi me payent. J'ai fait les élections américaines. Je dis simplement, en tant que journaliste, que je soutiens à fond la rédaction de iTélé dans son combat pour rester une chaîne d'information sérieuse, en continu, avec des moyens.
Et après les élections américaines, après cet été très chargé que vous allez passer, après le mois de novembre, après l'investiture, est-ce que vous vous sentez de repartir pour un nouveau quinquennat ? Barack Obama a dit qu'il restait à Washington. Je me suis demandé
si
ça allait.
Oui, mais moi aussi, comme Barack Obama restait à Washington, je resterai à Washington. Et je vais vous répondre, je vais vous donner un petit scoop, Sonia. J'ai décidé deux choses, et c'est difficile parce que je décide toujours toute seule. Parce que quand on est correspondant à l'étranger, on est seul. Donc, j'ai décidé que si Donald Trump est élu président des États-Unis, je resterai à Washington et je couvrirai Trump parce que je pense que journalistiquement c'est quelque chose d'incroyable, Trump président des États-Unis, et ça m'intéressera de couvrir certainement le début, la première année de Donald Trump. Si c'est Hillary Clinton, je ferai le départ de Barack Obama le 20 janvier. Comme tous les gens qui travaillent comme moi à la Maison Blanche, on a un countdown sur notre BlackBerry pour dire voilà, il reste tant de jours, tant de minutes. Et après, je ferai l'installation d'Hillary Clinton, c'est-à-dire sans doute les deux premiers mois, mais je ne couvrirai pas le mandat d'Hillary Clinton.
C'est voilà, ça c'est sûr. Ça fait à peine une saison de télé en perspective.
Voilà, donc
si les démocrates.
Voilà. Et après, si personne ne veut de moi, je ferai du yoga en permanence.
Alors, toujours dans l'actu, et ce sera le début de notre interview, Laurent Saïm, gros scandale aux États-Unis, on vous en parlait dès hier, hein, dans l'instant M. Facebook est accusé par un site très spécialisé dans les nouvelles technologies, mais très crédible, accusé de favoriser les démocrates. Écoutez son fondateur, Mark Zuckerberg, s'en prendre publiquement aux doctrines de Donald Trump.
I hear fearful voices calling for building walls and distancing people they label as others. It takes courage to choose hope over fear.
Voilà, ça demande du courage de choisir l'espoir plutôt que la peur. C'est le jeune Mark Zuckerberg qui tombe. Ça tombe mal parce que cette vidéo, évidemment, elle retourne partout. C'est des positions qu'il a prises publiquement. Il n'y a pas que l'algorithme de votre côté de l'Atlantique, Laurent Saïm. Il y a aussi des choix humains pour classer les sujets dits tendances qui vous arrivent sur vos pages Facebook. Des sujets tendances dont on aurait eu tendance à évacuer des personnalités conservatrices du type Mitt Romney ou Ted Cruz. Et là, c'est le scandale.
Oui. Mais c'est un scandale qu'on connaît tous. Les réseaux sociaux sont les acteurs dominants de cette campagne. Tout le monde se sert des réseaux sociaux. C'est d'une certaine manière ce que Barack Obama voulait. Barack Obama reçoit régulièrement les gens de Facebook, de Google à la Maison Blanche. Et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que cette campagne se fait à travers des réseaux sociaux avec le fondateur de Facebook qui a décidé, pour un agenda politique à mon sens qu'il a, de favoriser les démocrates. Voilà. Et donc, c'est une position affiché. Est-ce que ça aura de l'influence ou pas? C'est à voir, parce que ce que...
Alors, il est en train de faire machine arrière, le Mark Zuckerberg.
Oui.
Il rencontre demain le principal conseiller Donald Trump.
Oui,
pour la campagne.
En tout cas, il l'a fait, on parle de lui. C'est dit. Mark Zuckerberg a, selon moi, un agenda politique. Je pense qu'un jour, il aura envie de faire de la politique. Il est en train de construire à Palo Alto une espèce de rédaction pour faire des choses. Il vient d'engager un journaliste, un photographe qui travaillait pour le Washington Post avant, qui devient son photographe personnel.
C'est-à-dire son photographe personnel.
Alors,
qui va
en fait,
le suivre
vous savez que
et mettre en scène sa propre
alors,
personnalité
Barack Obama a Pete Souza qui le suit au quotidien et Mark Zuckerberg a décidé il y a quelques mois de faire un historique de tout ce qui se passe à Facebook et de son quotidien et donc il a été prendre...
Il construit sa propre légende en texte et en image.
Absolument, parce qu'il considère que Steve Jobs n'avait absolument pas fait ça et qu'il n'y a que la fiction qui a décrit la vie de Steve Jobs.
Donc, ça s'appelle The Social Network.
Voilà. Donc Mark Zuckerberg a décidé de prendre quelqu'un qu'on connaît en France parce que j'ai fait un livre pendant la campagne présidentielle française avec lui qui s'appelait Made in France, Charles Omanet. Et Charles Omanet, qui était le photographe politique du Washington Post, a été engagé par Facebook pour devenir le photographe personnel de Mark Zuckerberg. Et son rôle, c'est de documenter au quotidien ce qui se passe à Facebook et la vie de Mark Zuckerberg. Et c'est passionnant parce que ce sont des gens qui ont non pas des milliers de dollars, mais des millions voire des milliards de dollars, qui n'ont aucun problème d'argent et qui essayent à leur manière de toucher les sphères d'influence, les médias, de réinventer quelque chose. Moi, ça me passionne. Je sais pas où ça va aller. Je sais pas si ce sera un journalisme que vous et moi on pratique, mais je trouve que évidemment c'est très intéressant et ça rejoint ce que je dis toujours sur Twitter, sur Facebook, sur Google. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, on ne sait pas où ça va, mais ça bouge et c'est comme le début de l'électricité. Hein. On est dans un monde nouveau.
Alors, c'est d'autant plus déterminant pendant cette campagne que les adversaires à qui vous avez affaire ont, je le disais, une relation tordue à la presse et aux médias, chacun pour des raisons tout à fait différentes. On va commencer avec Hillary Clinton.
L'instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Voilà, ça c'est les équipes de campagne d'Hillary Clinton. Il se débrouille pour que personne ne puisse interviewer ni elle ni sa fille. Petit exemple, je vais aller par là, monsieur va me suivre. Voilà. Et si je vais par là? Et c'est comme
désolé.
Ça à chaque fois.
Désolé.
Miss Clinton, hi. Please, how do you explain it's always so close?
Bon, bah, elle a vraiment pas envie de répondre aux questions. Puis la sécurité est pas contente.
Voilà un extrait du Petit Journal, votre confrère Martin Veil. Ça, c'est des séquences que vous avez vécues, Laurence Haïm. Hein.
Oui, et c'est bien de le montrer à chaque fois, parce que c'est ce qu'on vit au quotidien, c'est absolument atroce. C'est la pire campagne que j'ai jamais couverte, on est parqués comme dans un zoo, ces gens nous haïssent, Hillary Clinton et ses conseillers ont une relation absolument
ces
terrible.
Ces gens vous haïssent, vous pesez vos mots.
Oui, haïssent, absolument. Hillary Clinton, on est dans une relation de haine, elle ne nous a jamais pardonné ce qui s'est passé pendant l'affaire Monica Lewinsky.
Quand elle dit « nous », vous englobez tous les journalistes.
J'englobe la presse américaine, etc. Elle a une opinion, elle dit tous qu'on est des imbéciles mal peignés, débiles mentaux, qu'on a un agenda, qu'on fait pas notre travail, etc. Moi, je trouve que c'est un discours très dangereux, surtout aux États-Unis. On se bat avec beaucoup de force pour lutter contre cela en dénonçant. Hillary Clinton n'a pas fait une seule conférence de presse depuis maintenant 4 mois. Elle a ses journalistes préférés qui sont les journalistes vedettes chez qui elle va régulièrement.
Elle n'a pas accordé une seule interview à la presse étrangère ?
Non, à ma connaissance, non. Tout le monde se bat pour la voir. C'est un beau combat, ça, d'essayer d'avoir Hillary Clinton pour la presse étrangère. Elle est dans sa bulle parce qu'il y a sa haine personnelle depuis l'affaire Lewinsky contre nous et puis une campagne qui a décidé qu'il ne fallait pas laisser les politiques improviser. Et donc, il considère qu'à l'époque des réseaux sociaux, la moindre petite phrase du style « Bonjour, quel temps fait-il ? Il fait beau » va être complètement déformée et que dans le contrôle absolu du message politique, l'improvisation doit disparaître. C'est ça qui est très intéressant dans cette campagne. C'est pas parce que bon, elle nous aime pas, d'accord, mais on veut le contrôle absolu du message politique. Et donc, il est absolument impossible, comme Martin Veil l'a très bien montré, comme moi j'essaye de temps en temps de le faire, d'approcher Hillary Clinton. Vous approchez au moment où elle signe, et c'est toutes ces images qu'on voit des autographes, et elle fait des selfies parce qu'ils utilisent les selfies en demandant de mettre les selfies sur Facebook, Twitter, etc. Donc quand elle fait 600 selfies par jour,
ça fait
une boule de neige. Et ensuite, vous vous approchez pour essayer d'avoir « Madame Clinton, s'il vous plaît, une question. Quelle est votre réaction sur les attentats en France ?» À ce moment-là, vous avez deux jeunes qui sont très bien entraînés, qui viennent derrière vous, qui
touchent. Secret.
Non, c'est pas les services secrets. C'est des jeunes de la campagne Clinton qui jouent déjà à la West Wing, qui sont mis dans une analyse de fanatisme par rapport à Hillary Clinton, dans une relation de fanatisme, et qui vous touchent la caméra, qui écartent la caméra en vous poussant carrément la perche, le micro du visage d'Hillary Clinton. Et si vous n'obtempérez pas, parce qu'évidemment notre rôle c'est de résister à ça, eh bien ils appellent les secrets de service. Moi je me suis fait expulser plusieurs fois des meetings d'Hillary Clinton parce que j'approchais et que je voulais simplement dire « Madame Clinton, un mot pour la France, s'il vous plaît ». Et donc je me suis fait expulser avec ensuite « alors vous pouvez plus rentrer au prochain meeting,
alors,
on vous envoie plus les informations ».
On a Donald Trump
qui fait pareil
avec la presse
étrangère.
Énième polémique avec les médias d'abord américains.
Every day of our life, every morning. Don't drink, don't do drugs. Don't...
Every morning before school.
We're sitting on a bubble. Our country's in tremendous trouble. So I think I do a really good job.
Là, vous venez d'entendre toutes les petites voix flûtées de la jolie famille recomposée de Donald Trump. Ils étaient tous sur un plateau à CNN, en train de se confesser,
CNN a inventé
montrer.
Un concept que moi j'ai trouvé extraordinaire, parce que vous savez, on parle beaucoup aussi en France de nouvelles émissions politiques, et donc tout le monde est en train de regarder ce qui se passe aux États-Unis. Le modèle absolu en France, c'est la journaliste de Fox News, Megyn Kelly, mais il se passe plein de choses. Les Américains sont en train d'inventer dans les chaînes généralistes une nouvelle manière de faire de la politique. Il y a quelque chose que j'ai trouvé extraordinaire, c'est CNN qui a inventé le candidat et sa famille. Et pendant une semaine, on a eu un talk show chaque soir avec un candidat venant nous présenter sa famille, sa femme, ses enfants, etc. Tout le monde a accepté, sauf évidemment Hillary Clinton pour le moment, parce que c'est plus complexe. Mais Donald Trump a présenté sa famille et Donald Trump utilise très bien sa famille. La famille Donald Trump fait campagne pour lui, sa fille Ivanka, sa femme, etc.
Alors pourquoi est-ce que Donald Trump tweete depuis quelques jours des appels au boycott de CNN ? Il a rebaptisé CNN Clinton Nomination Network ou Corrupt News Network. Il parle de CNN en disant « The best lies money can buy », c'est-à-dire les meilleurs mensonges que l'argent peut s'offrir.
Parce qu'on en parle, ça fait du bruit, qu'on est dans un système hystérique, que la chaîne adverse de CNN va reprendre ça, Fox News va reprendre ça, et Donald Trump domine toujours l'actualité. Donald Trump a été régulièrement invité par CNN. Donald Trump utilise CNN. Donald Trump a inventé quelque chose de
Il y a là un débat, une sorte de gueule de bois depuis l'investiture de
on
Donald Trump, un cas de conscience pour les journalistes américains.
On est dans télé-Trump aux États-Unis. Il n'y a pas de contrôle de temps de parole. Donc déjà, on ne peut pas comprendre cette campagne sans ça. Si une chaîne décide de faire 24 heures Trump, elle fait 24 heures Trump. Et vu les audiences faramineuses que Trump suscite, toutes les chaînes d'infos en continu ne font que du Trump. Donc, Donald Trump crée lui-même la polémique, alimente la polémique, tout le monde se précipite là-dessus. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que vous avez parlé en France de Donald Trump face à cette journaliste de Fox News, Megyn Kelly
ouais.
qui avait été très bonne hein, face à lui en lui posant des questions dures. Eh bien, demain soir, Megyn Kelly lance son émission où elle va rencontrer, interviewer des gens. Et le premier invité qu'elle a, c'est Donald Trump. Et toute cette anecdote est là. C'est-à-dire, cette relation de haine et d'amour qu'il entretient...
Profite à tout le monde.
Il profite à tout le monde. Il dit, je vous déteste, ça crée la polémique. Et puis, 48 heures après, il vient. Il a l'art et il a une vraie intelligence. Parce que moi, je pense que quand on est journaliste, il faut dire, c'est bien, c'est pas bien. Sur la communication, il a véritablement inventé une nouvelle manière de faire une campagne présidentielle. Par exemple, quand il s'invite au téléphone dans les matinales chaque jour, c'est incroyable.
Et là aussi, c'est totalement inédit. C'est totalement
complètement
inédit.
Complètement. C'est-à-dire que vous avez le journaliste vedette de la matinale de NBC News
qui se croise
choisit NBC
sur un plateau,
qui dit bonjour, on va avoir Donald Trump au téléphone. Et tous les matins, on se réveille aux États-Unis trois fois par semaine avec Donald Trump qui fait bonjour les gars, je suis au téléphone. Alors, bah, tenez, je vais vous donner. Et les chaînes laisse Donald Trump parler et on est dans un phénomène, à mon sens, très malsain de vedettariat, petites phrases qui s'entrechoquent et de quelqu'un qui domine complètement l'espace médiatique.
Alors pendant ce temps-là, les dépenses publicitaires des spots télévisés, des spots politiques télévisés aux États-Unis ont triplé par rapport à la précédente campagne. On arrive à des sommes absolument vertigineuses, hein, 408 millions de dollars dépensés ces 6 derniers mois.
C'est traditionnel, la publicité politique est autorisée aux États-Unis et grâce à cette publicité politique autorisée aux États-Unis, eh bien, vous aurez l'année prochaine des journalistes d'investigation qui passeront 2 ans en Syrie à faire un document exceptionnel.
C'est-à-dire qu'on renfloue les caisses de tous les médias.
Il y a une blague dans les médias américains qui dit si vous voulez du boulot dans une chaîne américaine, allez frapper à la porte en 2017.
C'est là qu'il y a de l'argent.
Voilà, il y aura pour le moment.
Ceci dit, cette explosion d'investissement publicitaire, ça en dit long aussi sur la méfiance qu'entretiennent les deux candidats avec les journalistes.
Oui, non, mais c'est très pervers parce que ils ont une méfiance de la petite phrase et de l'interview, mais en même temps, ils veulent dominer l'espace médiatique.
C'est ça. Ils saturent l'espace médiatique.
Ils saturent. Et Trump gagne parce que, par exemple, Trump a inventer quelque chose qui est exceptionnel. Lorsqu'il y a une victoire de primaire, il a décidé de ne plus faire de meeting le soir de sa primaire, mais il fait une conférence de presse. Mmh. La première fois qu'il a fait ça, c'était terrible pour les directeurs d'information de se dire, oh là là, il est 21h, c'est le jour de la victoire de Trump, il a gagné le New Hampshire et il fait une conférence de presse. Et Trump a fait une conférence de presse en invitant 25 journalistes et pendant 1h30, c'était la conférence de presse en direct, il y avait le directeur de l'information d'une chaîne que je ne nommais se dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je passe la conférence de presse de Trump ou est-ce que je passe le meeting d'Hillary Clinton qui va nous refaire son énième discours? La conférence de presse de Trump l'a emporté et il a multiplié cela. Et la semaine
Alors, rendez-vous politico-médiatique annuel, le 8e dîner des correspondants à Washington, le 8e et dernier pour Barack Obama. Celui-ci a fait le tour du monde. Son speech writer, enfin le directeur de son équipe de rédacteurs de discours, Cody Keenan, a expliqué à l'AFP que c'est le discours le plus difficile de l'année à écrire, qu'il va être disséqué par la presse pendant plusieurs jours d'affilée. Et là, ça a été un triomphe.
Oui, ça a été un triomphe et beaucoup
d'émotions.
Vous étiez
dans la salle.
Moi, j'étais dans la salle parce que je fais partie de la presse accréditée de la Maison-Blanche qui défend une certaine idée de ce métier d'indépendance par rapport aux politiques. Je crois qu'on est dans une époque troublée. Il faut vraiment défendre d'être dur par rapport aux politiques, de poser des questions terribles, de ne pas être dans le compromis. Et ça, la presse accréditée de la Maison-Blanche le fait très bien. Et le seul soir de l'année où on dîne avec Barack Obama, c'est ce soir-là.
Et
on était dans la
salle,
il nous fait rire, c'est les codes sont complètement explosés parce que sinon on se parle par email et on en a un peu marre d'ailleurs de parler uniquement par email. Et on a tous eu un moment d'émotion parce que Barack Obama à la fin nous a regardé, a lâché son micro en disant Obama out, mic out, le micro s'est terminé. Et on s'est dit que voilà, on avait vécu 7 ans d'une époque où Barack Obama a restreint beaucoup l'accès aux journalistes. Il a inventé un dialogue direct sur les réseaux sociaux. Donc moi, je ne fais pas partie des gens qui disent que Barack Obama, c'est bien tout le temps. Sur les médias, ça a été difficile. Mmh. Mais voilà, c'est une époque qui se termine et c'était cette époque qui se terminait.
Merci beaucoup, Laurence Haïm. On continue de vous suivre sur iTélé avec vos pastilles.
Et sur Twitter.
À Laurence Haïm, évidemment, et sur Twitter. Parce que là, il y en a de la faux et ça défile toute la journée. Fin de l'instant même. Bonjour, Bruno Duvic.
Bonjour, Sonia. Dans un jour en France, ce matin, le harcèlement sexuel au travail. Vos questions, vos témoignages, 01 45 24 7000 et un jour en France @radiofrance.com.
Vous voulez pas un regard américain sur le sujet puisque la France
on a deux
est
grandes
légèrement
bavardes déjà pour la France.
En train de s'américaniser. Allez, ce sera juste après les infos, il est 10h sur France Inter. Et c'est le flash qui vous est présenté par Laetitia Gaillet.